c'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Elila Kadour Boudadi.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler. Damien Morey.
Bonjour Daniel.
Albert Algou.
Bonjour.
Et Charles Mac. Bonjour. Bonjour. Notre invité est Olivier Marchand. Monsieur Olivier Marchal, ravi de vous accueillir. Monsieur
merci.
Le Président.
Oui, oh là là.
Trop la classe.
Monsieur
ouais, bah
President.
Ouais. Yeah, Miss President. Et en ce moment, être président, c'est pas...
Non, c'est pas...
C'est pas trendy.
Non, non aux États-Unis en tout cas, c'est pas tip-top.
Oh, même ici, c'est un peu compliqué.
C'est vrai, c'est compliqué, tu penses. Vous êtes président du jury de la fiction au festival de films
Luchon.
De télévision. Oui, mais parce que c'est le festival Luchon. Des créations télévisuelles
oui,
de Luchon, qui est un très joli petit village dans les Pyrénées. Ça commence au 1er février jusqu'au 5, le meilleur de la télé, avez-vous compris? Une fois pour toutes, Maréchal, pourquoi?
Affirmatif, Nagui.
Olivier est notre invité.
Affirmatif, je viens de vous le dire. Et je saurais le dire.
Oui, mais j'avais pas fini ma phrase.
Nous recevons Olivier Marchal, car comme le prouvent ses états de service, et à la différence de la bande de bleubites qui vous servent la soupe dans cette émission, Marchal, comme moi, est un type qui en a dans le froc. Un point commun que souligne notre troublante et quasi homonymie. Marchal, Maréchal. À tel point que tout à l'heure, Nagui, quand vous êtes arrivé dans ce studio, 5 minutes à peine avant le début de l'émission, quand vous avez demandé à la cantonade et surtout à votre factotum et rédacteur en chef, Jean-Baptiste Bussière, au fait, JB...
Ah, c'était on balançait le nom de famille.
Au fait, JNB, c'est qui l'invité? Il faudrait quand même que je regarde la fiche que tu m'as préparée. Et quand Jean-Baptiste vous a répondu, l'invité, c'est Marchal, croyant entendre Maréchal, j'ai cru qu'enfin les instructions de Mathieu Gallet me concernant...
Mathieu Gallet.
On prononce toutes les lettres en français.
Non,
depuis qu'il m'a signé un CD, allait enfin être suivi des faits. Mais, Pozzobi, Macash Bono, que dalle, j'avais mal entendu. Faudrait que je demande à Annie Dupéret, qui était là l'autre jour, de me régler mon Audica. Et c'est Marchal, l'invité.
C'est moche.
C'est moche, mais
c'est petit.
C'est
non,
technique.
Je parlais de la vanne.
Je sais, Nagui, vous allez me dire que cette analogie entre Olivier Marchal et moi, le fait que nous ayons, lui et moi,
des problèmes pour lire.
Oui. de cataracte. Et surtout, ça. Que nous en ayons dans le froc n'a rien à voir avec sa venue, puisqu'il vient ici en tant, vous l'avez dit, président du jury de fiction du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Ce n'est pas un petit village, comme vous avez dit, mais une ville. Les Pyrénées. Ouais, eh bien, détrompez-vous.
C'est vrai, c'est une ville.
Parce que pour présider ce jury, rien de tel qu'un gars rompu en tant que comédien, scénariste et réalisateur. Un gars rompu des âges aux meilleures séries, Braco, Section Zéro, aux meilleurs téléfilms, Borderline, aux meilleurs films, 36, 4 des Orfèvres, c'est lui, les Lyonnais, c'est lui, Carbone, c'est lui. Un gars à qui on ne la fait plus en matière de suspense et d'intrigue policière et qui sait de quoi il parle quand il s'agit de faire la différence entre une daube et une œuvre de qualité. Bref, si je me réjouis qu'Olivier Marchal soit tout à fait à sa place à Luchon, je regrette pour ma part de ne pas y avoir été invité. Non que je prétende à des compétences en matière de fiction télévisuelle, mais parce que dans les villes d'eau, comme on dit, et pas qu'à Vichy, je me sens chez moi. C'était en 1954, de retour d'Indo, car moi aussi, comme M. Marchal, jadis j'ai servi la France, libéré du camp de Gang Bang Phoc, horriblement mutilé du fessier par le général tensionnaire Suzy Wan, qui m'avait ôté 2 tranches de cul, j'avais été envoyé en cure thermale à Luchon, où pour apaiser la gêne occasionnée par le terrible handicap dont je suis hélas affligé depuis, je prenais des bains debout assis. Enfin, je veux dire, assis dans la boue. Mais un matin, alors que pour passer le temps pendant mon bain de siège, j'avais demandé à mon ordonnance, ding 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 ding, de me bourrer une bonne pipe, quand il l'a allumé, tout a pété. Le soufre et le dioxyde de carbone de la boue thermale avaient été surdosés par un infirmier coco, un pacifiste. Le remède se révéla donc pire que le mal, et depuis, j'ai encore plus de mal à rester assis. Aussi vais-je devoir me lever en vous souhaitant une bonne émission.
Merci.
C'est
merci.
Un peu facile, je sais.
Sur
on m'a servi un bon café.
Est-ce que c'est justement ce qu'on vous demande, Olivier Marchal, en tant que président du festival de Luchon, de distinguer, vous avez dit quoi, la daube du bon polar,
de l'œuvre de qualité,
ouais, c'est ça.
Du bon polar.
Je n'aurais pas cette prétention, mon cher Nagui. Non, bah, bon, moi c'est un plaisir, Luchon. C'est déjà comme j'ai pas pris beaucoup de vacances, donc ils ont insisté, donc ça me fait 5 jours à la montagne.
Il est franc, moi.
Voilà.
Vous allez skier.
Comment ?
Vous avez skié un petit
non,
peu ?
Non, je skie pas. J'ai eu un très grave accident de ski. J'ai 1,5 cm en moins à la jambe gauche à cause du ski.
Ah, donc, ça complique la chose.
À la jambe, je précise. Et donc,
moi aussi. Donc,
ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, c'est le ski, c'est fini. Et Luchon, j'y allais quand j'étais petit faire des cures pour la sinusite. Donc, voilà,
qui marchait très bien. Moi, je l'ai fait pour les otites. Mais voilà.
Donc, c'est. À Luchon aussi.
On a dû se croiser. On a dû se croiser.
Mais peut-être.
Non. Vous devez avoir 40 ans d'écart, donc je crois pas.
Justement, donc senior.
On n'est pas loin. On n'est pas loin. 1958.
À 8 ans près.
Oui.
On peut y aller.
J'échange avec Monsieur Marchand.
Oui.
Quand même.
On est tous les deux du 14 novembre. On pourrait jouer aussi. Tous les deux du 14 novembre. C'est passionnant.
Comme Patrick Sébastien.
Je pense que les auditeurs s'éclatent là en ce moment. C'est un bon moment de radio que nous sommes en train de vivre.
Oui, c'est vrai.
Donc, vous êtes président du jury. Vous aurez Bénédicte Delmas, Michael Youn, Christiana Reali, Nathaniel Méchali, Lucie Lucas, Julie de Bazac et Jean Labib. J'ai oublié Amine et l'IUA, pardon, qui seront vos jurés. Ouais. Entre guillemets, vous avez déjà été président d'un jury ou c'est la première fois
au festival de Beaune du Polar, ouais.
Voilà. Et alors ça marche comment? Tout le monde va en même temps voir tous les films ou vous avez déjà tous vus?
On est obligé. Non, enfin là pour la télévision, il y en a certains, on a des liens justement où on les regarde chez nous, d'autres qui sont obligatoires là-bas, des séances obligatoires. À Beaune, on avait 4 films, on voyait 4 films par jour. Où il faut une vraie, parce que j'étais avec Guy Lecluise et François-Xavier de Maison, donc on finissait assez tard. La nuit, voilà, on a dégusté pas mal de
Bourgogne.
Donc c'est vrai qu'il faut être à la séance de 10h, c'est celle la plus dure. Après, ça va. Non, mais c'est génial. En tout cas, Beaune, c'était une super expérience. Et après, on débat, on n'est pas souvent... Enfin, on avait décerné le prix à Dans ses yeux, là, le film argentin qui est un chef-d'œuvre. Et qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger d'ailleurs. Bon là, c'est on a beaucoup plus de travail et parce qu'il y a beaucoup plus d'œuvres à regarder.
C'est ça. Et puis il y a cette nouvelle patte ou manière de faire les fictions françaises parce qu'elles ont quand même évolué. Il y a même un sondage récemment. Enfin, c'est pas un sondage, alors c'est une étude qui a prouvé que les séries françaises emportaient haut la main devant les séries américaines maintenant à la télévision en termes de succès.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Non, ça tient à quoi ça?
Bah, disons que il y a une prise de conscience quand même des chaînes où le public a c'est vrai, il y a une exigence face à la pauvreté, on va dire, entre guillemets, malheureusement, du cinéma français, qui pour moi, lui par contre, a baissé. C'est vrai que la télé a pris une importance. On a de très bons acteurs, on a de très bons scénaristes, on a de très bons réalisateurs, et les gens aiment bien se familiariser quand même avec leur
donc les fictions télé pour vous sont meilleures, non seulement meilleures, mais meilleures que le cinéma.
Ouais. Au cinéma, regardez, sur 220 films, les gens, ils vont en voir 5-10 sur les 220. Les autres, on ne sait même pas qu'ils existent. Ça s'adresse à un cinéma, un télo, pompeux. Enfin, vous voyez,
c'est aussi Olivier Marchal, parce qu'il faut faire la démarche d'aller au cinéma, il faut payer. Aussi. Or, la série est diffusée en télévision et donc elle est accessible à tous.
Mais franchement, il y a beaucoup de films français que vous avez envie de voir, très, très honnêtement, en long métrage.
Ah, si, il y en a quand même.
De vous précipiter, il y en a 10 quoi, dans l'année, voilà, c'est en gros.
Non, vous êtes sévère. Non, moi je dirais qu'il peut y en avoir un toutes les
11.
2 semaines.
Ouais.
Non, je pense qu'il y a une vingtaine. Il y a une vingtaine de films qui, après, qui sont pas forcément faits pour rencontrer un énorme succès populaire, mais il y a des beaux films bien écrits.
Oui, mais ça, je suis d'accord, mais enfin, il y en a 20 alors, on va dire, sur 220.
Vous votez au César ou pas?
Non, c'est.
Pourquoi vous hésitez? Vous votez ou pas?
Non, je suis pas moi qui vote. Je reçois le coffret, mais ça m'intéresse pas. Enfin, c'est une cérémonie qui m'intéresse pas. J'y ai été une fois et c'est une telle hypocrisie, c'est une telle jalousie, une telle méchanceté de tout le monde que ça n'a aucun intérêt.
Enfin, cette grande famille du cinéma.
La grande famille du cinéma. Ouais. Comme disait Georges Lautner, qui était mon pote, il disait, tout le monde s'encule, mais personne ne jouit, quoi. Donc, c'était pour, excusez-moi, on est sur France Inter.
On fait ça aussi.
On fera une soirée chez Nagui.
Mais moi, j'aime cette franchise.
Bah oui, au moins,
c'est vrai.
Il n'a pas ça dans la poche.
Mais il y a forcément un.
Je n'ai vu que de la haine au César. Moi, j'y suis allé une fois. J'avais 8 nominations pour 36. Mais quand j'ai vu ça, c'est le festival de l'hypocrisie, quoi. Gérard Lanvin, qui est mon pote, il ne va plus au César du tout.
Vous pensez qu'il y a ceux qui ont la carte et ceux qui ne l'ont pas là-bas?
Ouais, ça, c'est, oui, ça,
et
ça,
vous n'avez pas un petit favori cette année?
Ouais, non, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas qui a été... Non, mais quand vous savez que, par exemple, je ne vais pas dire de nom, mais il y a certains acteurs et des producteurs qui se réunissent le soir des Césars pour dégueuler sur tout ce qu'ils voient et qui font des paris. Ils jouent de l'argent, quoi, chez eux. Ils font des soirées spéciales César.
Ça, c'est vrai.
Je me dis, ils n'ont pas d'autre chose à foutre. Et moi, je raconte l'anecdote de mon père, le pauvre, qui est décédé, mais quand j'ai été nominé, ils n'avaient pas Canal+. Et lui, il avait mis un costume et une cravate pour aller regarder la télé chez les voisins.
Ah,
parce que j'ai été nominé.
La fierté.
Et voilà. Et donc, moi, c'est ça qui est joli, qui me touche. Voilà. C'est pas l'attitude. Enfin, on sait très bien que je suis pas en grand amour avec cette grande famille du cinéma français, mais j'adore ce métier.
On l'a mieux compris.
Mais c'est un milieu.
Donc, ce que vous aimez, c'est raconter des histoires, les filmer, c'est les personnages, ce sont les comédiens qui jouent. Ouais. Et c'est justement l'avantage de ce genre de festival. Et là, c'est qu'on y trouve tout ça, aussi bien les bons comédiens
que les
bonnes histoires.
Et j'imagine que pour vous, c'est un vivier incroyable aussi, parce qu'au-delà de votre rôle au sein de ce festival, c'est de découvrir des scénaristes et vous donner peut-être des idées de collaboration future, c'est découvrir aussi de nouveaux visages. Est-ce que vous y allez aussi dans cet esprit-là, Olivier Marchal?
Moi, je regarde beaucoup les séries et les téléfilms, et j'ai un petit carnet où je note... les acteurs que je repère, quoi. Et ça m'est arrivé d'appeler des chefs opérateurs ou des scénaristes ou des metteurs en scène.
Après avoir vu leur travail.
Après avoir vu, c'est franchement.
C'est important de se tenir au courant de qui a de nouveau, qui débarque, qui a fait quoi.
Ah oui, quand même. Le petit qui joue dans Guyane, par exemple, le petit Spinozzi, là, je l'ai remarqué là-dedans. Il est super, ce môme, quoi. Enfin, voilà, c'est.
Après, non, mais vous pourriez être avec votre réseau, toujours les mêmes potes, les mêmes techniciens, les mêmes comédiens et
j'ai
la bande.
Ça, oui, ouais. La bande alliée. Ouais. La bande alliée, elle est incontournable, hein, parce que moi, j'aime faire plaisir aussi à mes amis, et puis je les aime aussi parce que. C'est des bons acteurs et c'est des bonnes personnes dans la vie, surtout. Voilà, mais de temps en temps, on fait rentrer dans la famille,
Pour vous, les deux vont ensemble, un bon comédien, un bon acteur et forcément quelqu'un de bon humainement, ou il y a des gens qui sont des saloperies humaines, mais qui sont bons comédiens.
Il y en a très très bons qui sont des très très belles saloperies, oui, ça c'est...
Apparemment, on pense aux mêmes.
Vous les connaissez.
Il y a, parmi tous, pas de faire de la promotion... il y a Armel Deutsch qui sera. Il y a des comédiens et des comédiennes qui seront présentes. Claire Kem, Julie Depardieu, Nicole Calfan, Guillaume Gallienne sera également parmi toutes les fictions en compétition.
Avec son Oblomov, j'ai hâte de découvrir ça.
Problème pour vous. Problème pour vous. Là, je vous le dis, président. Il y a un problème, président. Il y a
Pourquoi
un truc. Parce que votre nouveau long métrage s'appelle Carbone. Il sortira au mois de novembre.
Ouais.
Il y a Benoît Magimel.
Ouais.
Et. Laura
Smet. Ouais.
Problème pour vous, elle est en compétition dans deux téléfilms.
Je sais.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est déontologique?
C'est ça le problème, quoi.
Non, mais je voterai en mon âme et conscience. Non, vraiment.
Le tournage de Carbone est fini?
Oui, je suis en montage, là.
Et alors, vous êtes content? Maintenant que vous voyez les rushs, maintenant que vous voyez.
J'ai déjà un film d'une heure 45, quoi. Il est le premier ours, comme on dit, qui est monté. Je suis content.
Il correspond à ce que vous aviez en tête?
Il est regardable, il est joli.
Il est regardable.
Élégant.
Voilà, c'est
bien. Est-ce qu'il fait partie des 20 qu'on pourra regarder?
Non, j'ai pas. Encore une fois, je regardais une émission avec Bertrand Blier ce matin, parce que sur Patrick Devers, là, il y avait Blier que j'adore, moi, et qui disait qu'il regardait pas ses films et que de temps en temps, il s'en faisait un tous les 5 ans, il regardait 20 minutes pour voir s'il avait bien vérifié qu'il avait fait une grosse merde. Donc c'est Bertrand Blier avec ses mots à lui, quoi. Et j'ai trouvé ça assez humble de la part de ce grand monsieur qui a du mal à faire ses films aujourd'hui quand même. Donc voilà, il faut quand même le signaler. Et c'est pas normal, quoi.
Non. La télévision a cet avantage, en tout cas peut-être pour les gens du métier, ou cet inconvénient d'aller plus vite. Inconvénient, ils vont plus vite, ils ont moins de temps, moins de budget qu'au cinéma. Avantage, on est dans une espèce d'énergie, on peut plus coller à l'actualité, coller à un fait divers, coller à l'air du temps, à la société. Votre film sortira au mois de novembre.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe si, là, à Luchon, vous voyez un film qui raconte qu'un bonhomme qui a une entreprise, met au point une arnaque parce que son entreprise est menacée de s'écrouler, met au point une arnaque et un casse pour récupérer de l'argent. C'est-à-dire le pitch de votre film, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, je vais pleurer dans ma chambre d'hôtel. Non, je sais pas. Carbone, je sais qu'il y a un autre, comme ça c'est relatif aux escrocs, à la taxe carbone. Ouais. Mais on s'est inspiré.
Le sujet a été.
On a pris beaucoup de liberté par rapport à ça. On a juste repris l'idée et transformé beaucoup de choses. Mais il y a un autre film qui est en préparation là. Mais bon, nous on sortira avant déjà. Donc déjà au cinéma, je sais qu'il y a un autre projet.
Voilà, donc il faut surveiller quoi. Il faut surveiller pour pas trop se faire passer devant.
Oui, et puis il y a eu deux films sur Yves Saint Laurent. Il y a eu deux La Guerre des Boutons. Enfin,
bon, c'est des choses qui arrivent.
Oui, malheureusement. Après, c'est des concours de quéquette, hein, je crois.
Est-ce qu'il y a des sujets là que vous avez vu passer, je pense au Mediator par exemple, ou que ce soit ce scandale entre guillemets, puisque Emmanuel Berco a réussi à faire le film avant même que le procès ne soit fait. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez vu passer en disant tiens, celui-là j'aurais aimé être dessus?
Non, après, moi j'ai un projet avec Michel Néret, quoi, c'est mon le commissaire de Lyon qui est mon ami sur sa vie, quoi.
Et enfin, que vous avez défendu bec et ongles.
Ben oui, parce que c'est un super pote, et donc là on a un projet là-dessus.
Un biopic en fait.
Oui, enfin c'est surtout sur c'est les années quand il avait 40 ans, quand il arrive à Lyon et qu'il a démantelé en fait toutes les grosses équipes de braqueurs, et comment il est arrivé à travailler avec ses indics et comment ce système est arrivé par le perdre, quoi. Voilà, donc on est là-dessus. Et là, je suis en train de travailler sur un film sur le grand banditisme, mais sur les années 50. Voilà
je vous enfoncez
un film d'époque. Quoi.
Vous enfoncez le clou sur l'ancien policier qui se retrouve cinéaste, acteur, scénariste. Vous enfoncez le clou sur le film noir, le film de genre. Vous n'avez pas envie de passer à un autre genre, justement
western.
De surprendre.
Mais j'ai essayé.
Ouais, non, un western, western, on raison de gueule. Ah oui,
mais
non.
Un western, pour parler pour un western, c'est l'adaptation d'une bande dessinée de Jean Van Hamme, qui s'appelle Western, justement, qui est une histoire formidable.
Ah, qui est formidable.
C'est formidable, mais le problème, c'est que tout le monde hésite, et en plus, les westerns aux États-Unis, ils marchent pas, donc, ils se disent avec un français, ça
pourquoi ils marcheraient en France, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est le problème. Le problème, c'est vrai que le public moi, j'avais un gros film sur la guerre de 14-18, et on a travaillé 3 ans dessus avec, c'est Chris surtout, c'est l'adaptation, c'est Notre Mère la Guerre.
Ah, c'est génial comme bande dessinée.
Voilà, enfin, on a fini par céder, quoi, parce que les gens ont peur de tous les films sur 14-18 qui sont sortis là depuis 3 ans n'ont pas marché, donc maintenant les gens, c'est normal, le système de production est frileux parce qu'ils se disent bon, on va se planter, quoi, et que ça
alors,
coûte cher,
si c'est
25
pas,
millions d'euros,
si c'est
quoi.
Pas un western, c'est pas un film
une comédie
lien
musicale
avec la
sur la garde à vue,
non.
Mais oui,
une comédie
si
romantique,
un jour t'arrêter pour t'interroger.
Une comédie romantique, par exemple, ça c'est pas en termes de.
J'étais sur l'adaptation du dernier roman, l'avant-dernier roman de Grégoire Delacour, que j'adore, on ne voyait que le bonheur, qui est un roman sublime. Alors
il était venu nous présenter à la naissance de la bande originale.
Il est génial. C'est un auteur moi que j'adore vraiment.
Il est venu la semaine dernière.
Et voilà, pareil, ça ne, je sais pas, peut-être que les gens. On se dit, voilà, on oublie, en parlait aussi ce matin d'Alain Corneau, où le journaliste lui disait que Corneau n'avait pas été foncièrement reconnu à la place qu'il aurait mérité. Moi, je connaissais Alain assez bien, quoi. C'est un cinéaste que j'adorais, un monsieur très touchant et très cultivé. Mais il disait qu'il s'est un peu perdu, il a essayé trop de genres, et peut-être qu'il aurait dû rester dans le polar, Corneau aussi. Peut-être.
Et donc, vous redoutez quoi qu'éventuellement, vous n'ayez pas la carte pour faire de la comédie romantique parce que vous êtes.
La carte, il l'a pas avec tout ce qu'il a dit sur le cinéma.
Je parle des producteurs. C'est-à-dire que vous soyez juste catalogué au genre film, police, grand banditisme et qu'on ne vous fasse pas confiance éventuellement sur une comédie romantique.
Mais c'est pas ça. C'est que je pense que le public aussi, je crois qu'ils attendent ça aussi avec moi, quoi.
Moi, je trouve que vous avez une gueule, vous pourriez dans une comédie romantique.
Ah oui.
Mais j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché au cinéma, elle s'est plantée.
Donc, c'était quoi?
J'ai fait merde, je me souviens plus.
Ah voilà.
C'était avec Audrey Fleurot et Zabou, c'était.
Bon cast pourtant.
Oh là là,
qui l'a réalisé?
Ouais, c'était Catherine. Castel. Je suis désolé.
On va retrouver.
Non mais.
Belle comme la femme
plus, de plus belle que la femme de notre, ouais.
C'est ça.
Aussi belle que la femme de notre.
Ah, enfin,
le titre était.
Ça.
Voilà, mais ça n'a pas.
C'est bien,
très bien marché.
On l'a retrouvé. Oui. Tout ne dépend pas non plus de
d'un rôle. Je suis trop vieux maintenant pour jouer. Maintenant, on m'appelle pour les grands-pères et tout ça. Donc,
mais
si, c'est moi en plus. Mais tant mieux, les jeunes grands-pères.
Apparemment, il y a une ouverture du côté d'Alison qui n'arrive pas à le croire.
Moi, j'aime la maturité.
Ouais, c'est ça. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand vous avez vu qu'Olivier Marchal était notre invité.
Et oui, immédiatement. immédiatement, Olivier Marchal, j'ai pensé à beaucoup de choses, notamment...
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut dire à la radio?
Voilà. Non, mais tout va bien, Olivier, n'est-ce pas? J'ai pensé aux Lyonnais, avec Gérard Lanvin et Tchéky Cario.
Oh là là.
Allez.
On espère à peu près tous la même chose. Que la vie soit belle et tranquille. Avoir une famille heureuse. Des amis sur qui compter.
Sergio s'est fait crever par des condés.
Serge pourra pas être des vôtres. T'as un message à lui faire passer?
Pourquoi t'es facteur?
Voilà, Les Lyonnais, un film moi que j'adore, vraiment, avec une
c'est
ambiance incroyable.
Je trouvais ça un peu brutal, moi. Olivier, vous êtes
sans lumière.
La lumière était... Vous préférez les Lyonnaises, hein, c'est ça.
Les bouchons.
Les bouchons, absolument. Et un casting incroyable. Là, j'ai cité Gérard Lanvin, Tchéky Cario, il y a tout un tas de comédiens, c'est extraordinaire. Mais justement, bosser avec Gérard Lanvin, moi j'ai une curiosité, je trouve ce comédien assez incroyable. D'ailleurs, la scène d'ouverture des Lyonnais, c'est en tombe amoureuse de Gérard Lanvin.
Il est torse nu, bronzé, ouais, c'est normal.
Oui, et puis il incarne quelque chose.
Quand on a un bestiau pareil, on le filme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il est beau. Il fait 10 ans de moins. Non, mais Gérard, c'est mon pote. Je le vois lundi soir, là, il vient. Donc, c'est vrai que c'est une amitié qui vient du Fissageau, quoi, avec de Philippe Guillard.
Oui.
Voilà,
dans le monde du rugby.
Ouais, et puis Gérard, c'est un type, voilà, c'est une grande gueule aussi.
Alors justement,
c'est avec qui vous partagez l'amour de la profession. C'est ça.
Ouais, mais vous savez, il a eu un César du meilleur acteur pour Le Fils préféré de Nicole Garcia. Il était génial et il a donné son César pour que le César soit vendu aux enchères pour une œuvre caritative. Donc il s'en est débarrassé pour que l'argent aille à une association. Faut le signaler parce qu'il en parlera jamais.
C'est pas énorme. Il faut pas dire que les choses comme ça. Olivier,
si,
il s'en est débarrassé. Il l'a pas jeté.
Il s'en fout.
Il l'a mis en valeur pour que l'argent serve à quelque chose.
Bien.
Il lui a donné une utilité.
Ouais, ouais, voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui les mettent sur les étagères et on les voit bien quand on rentre dans leur bureau. Ça, on voit que ça d'ailleurs. Mais ils n'ont pas la photo de leurs enfants, mais par contre, les Césars sont là. Donc, mais après, c'est ça.
Olivier, vous êtes énervé.
Ouais, je suis énervé en ce moment.
Même, vous l'avez senti, Nelly.
Pourtant, je me suis levé, j'étais de bon poil. Mais
tu m'as vu être énervé, c'est ça.
Ouais, c'est la question. En fait, après, puis ça me joue des tours parce que là, j'ouvre ma gueule et c'est repris. Mais j'arrive pas à mentir, quoi. J'ai un vrai problème.
Mais du coup, ça crée pas une famille avec tous ceux qui pensent comme vous, comme Lanvin.
Je crois qu'ils s'en foutent. Ça les empêche pas de continuer à vivre, et tant mieux. Mais avec Gérard, oui, ça nous rapproche un peu.
Ouais,
on est toute une bonne brochette. Mais non, on tourne des films comme un pâtissier va faire ses gâteaux, comme vous venez faire vos émissions. Gérard, il n'arrive pas avec son chauffeur en gueulant parce que le café est froid.
Et justement, Gérard, quand est-ce
rien à voir avec nous, hein, parce que là, l'Égyptien, il arrive avec un melon comme ça. Il met un quart d'heure à enlever son bonnet. Attends, il est en fait.
Et justement, Gérard Lanvin, vous allez le faire jouer quand? Il y a un projet, il y a quelque chose?
On a un projet avec Philippe Guillard, justement, pour faire deux grands-pères, Gérard et moi, voilà, qui sont chargés de...
Ça va pas aider au niveau du sexe à pile,
de surveiller leur petite fille. Si, non, mais c'est un ancien gendarme, lui, et moi, je suis un ancien tenancier de boîte à Ibiza, et donc les deux grands-pères qui ont rien à voir, il y en a un qui est encore, et puis l'autre qui est rigide, et ils doivent, c'est un joli projet de comédie.
Non, surtout, c'est drôle.
Ils doivent s'occuper de leur petite fille de 17 ans qui doit passer le bac parce que les parents sont mutés. Voilà,
ce qui est drôle, c'est qu'on imagine qu'ils auront un vécu féminin et que, donc, ils savent ce qu'il faut éviter comme piège.
Voilà.
Évidemment. On poursuit, et quand je pense à vous, Olivier Marchal, je pense aussi à Borderline.
Flic ou voyou, quelles limites aux méthodes de la police? France 2 lance le débat dans votre nouvelle soirée continue. 20h55, première partie, Borderline d'Olivier Marchal, un film inédit inspiré d'une histoire vraie sur la chute d'un grand flic.
Un bon flic, c'est un flic qui obtient des résultats. Pour obtenir des résultats, il n'y a qu'une façon de procéder. Il faut mettre les mains dans la merde.
Il y a remuer la merde et se foutre dans la merde, commissaire. Ce n'est pas exactement la même chose.
Voilà, Borderline, qui avait fait l'objet sur France 2 d'une soirée rallongée. Après la diffusion de Borderline, il y a eu un débat auquel vous avez assisté pour poser la question, en effet, de comment les policiers peuvent mettre en place des systèmes pour obtenir des informations. C'est pas si manichéen que ça. C'est un débat qui a été assez porteur, qui a donné lieu à pas mal de conversations.
Et on l'avait reçu, Olivier, pour ça.
Voilà, on en avait discuté ensemble. Depuis, j'imagine qu'on vous en parle beaucoup et qu'il y a encore eu des débats autour de cette question.
Disons que ben, moi, je suis resté très proche de Christophe Gava, qui était le numéro 2 de Michel Néret, qui a fait 96 heures de garde à vue, dont le film est inspiré de son histoire. Après, oui, les flics dans la rue, voilà, j'ai cette chance, c'est que j'ai toujours mon permis grâce à ça, quoi, vous voyez. Donc, c'est que, ils me témoignent toujours c'est des vrais témoignages d'amitié,
j'ai toujours mon permis grâce à ça.
Oui, parce que ça veut dire
que si vous faites gauler à un feu rouge,
est-ce que c'est rassurant pour le reste de la population? Est-ce que c'est vraiment rassurant, Olivier?
Est-ce qu'il n'y a pas deux poids deux mesures?
Est-ce qu'il faut
écoutez,
vraiment
je regardais
dire...
une émission ce matin quand je dormais pas avec Nagui dans son jeu où le mec lui disait j'ai conduit un Boeing 747.
C'est vrai.
Voilà, oui.
Ouais, alors, c'est vrai, ça m'a fait flipper ça.
Le pilote était son pote, il lui a passé les commandes,
mais
il
non.
a mis sur.
Je te jure.
Oh,
oui,
bon
voilà,
sang,
donc c'est quand
ça.
Même pas.
Et le mec, il a fait un virage, ouais. j'ai halluciné.
C'est pas vrai. C'est peut-être un mensonge.
Ouais.
J'ai peur que.
Je dis que c'est un mensonge, comme ça rassure Alison, elle voudra plus prendre l'avion, ben voilà.
Non, je dis que le mec maintenant n'a plus le droit de le faire. Mais ça fait peur. Ouais, je suis d'accord.
Je crois que j'étais dans cet avion.
Donc à chaque fois on vous témoigne, c'est ça, les policiers.
Oui, quand il y a eu tous les mouvements de grève qui continuent d'ailleurs, oui. qui reprennent là aujourd'hui et tout ça, ils m'ont demandé d'être un peu leur porte-parole et tout ça. Je vais pas m'engager là-dedans parce que je c'est pas mon rôle d'abord et puis je
vous avez déjà assez d'emmerdes comme ça.
J'ai assez d'emmerdes comme ça. C'est vrai, j'en ai eu pas mal.
Vous n'avez pas la carte au cinéma, mais vous avez la carte de police.
Oui, la
carte, vous l'avez. Ce côté-là, vous l'avez. Nous parlons du festival du film de Luchon, festival du film de télé de Luchon qui a lieu du 1er au 5 février. Et c'est le président du jury qui est notre invité.
Oui.
Elle y sera forcément un jour primée, ça c'est sûr. Et j'espère que les premières choses qu'elle dira, c'est merci la bande originale.
Merci Nagui, merci
la France. Non, la bande, la France, oui, merci la France, merci la bande originale, ce qui est un peu pareil. Voici Alison Wheeler.
Non.
Vous savez quoi? J'ai encore entendu parler à la télé hier d'un nouvel épisode de Pollution et j'en ai marre. J'ai l'impression d'entendre le teaser d'une série TF1. Ce soir sur TF1, nouvel épisode de Pollution. Sauf qu'à la limite, un épisode de Pollution passe encore, mais là, c'est carrément toute la saison qu'on se tape. Et les rapports des associations sont hyper alarmants. L'atmosphère est tellement dégueulasse qu'on ne note plus l'air. On donne une note à la pollution. Ouais, moi aussi, je trouve la pollution, elle est moyenne. Peut mieux faire. Franchement, elle fait pas d'effort. C'est fou d'avoir des gens qui contrôlent la qualité de l'air que nous, humains, salissons. Au lieu de s'arrêter de salir l'air, on demande à quelqu'un de nous rappeler à l'ordre chaque fois qu'on le fait. Ça sert à quoi de se faire mettre le nez dans le caca une fois que c'est fait? J'ai dit caca sur France Inter. Pardon, j'adore son mot, c'est mon péché mignon. Pour les bons vivants, je parle de pipi un peu plus tard. En France, chaque année, il y a 48 000 morts à cause de la pollution et ça ne change pas notre façon de vivre. On ne veut pas se donner la peine de changer nos habitudes. La pollution, c'est comme la vie sexuelle de nos parents. On sait que ça existe, mais on ne veut pas voir. Papa, pourquoi tu mets des particules fines sur le visage de maman? On a des agences qui détaillent jour par jour les causes directes de la pollution de l'air. On paye des gens pour nous dire ce qui ne va pas. On nous le dit et on ne fait rien. En vrai, la pollution, les gens s'en branlent tellement que le périphérique parisien va bientôt être sponsor Jackie et Michel. Et ce qui me rend dingue, c'est que l'écologie reste encore trop absente des programmes politiques. C'est ce que j'appelle l'effet Loana. De temps en temps, on en entend un petit peu parler, mais globalement, elle n'arrive pas à s'imposer. L'écologie, c'est aussi dur que l'après-loft. Non, on préfère parler sécurité, identité, austérité. Mais à quoi bon parler d'avenir si mes enfants vont respirer avec un seul poumon? Il faut faire quoi pour qu'on parle d'écologie en politique? Il faut que Sidney Love fasse un titre qui s'intitule Respire.
Oh ouais,
je donne mon souffle pour tous ceux qui n'ont pas respiré pour mes frères. Non, sérieusement.
Dommage. Bon,
on ne fait pas rien bien. Du tout. Ouais. Mais c'est dur. Ouais, j'ai quand même lu qu'Anne Hidalgo essayait de faire en sorte que les voitures diesel ne circulent plus d'ici à 2020 à Paris. Et il y a quand même une asso qui s'appelle 40 millions d'automobilistes. C'est pas une blague, c'est comme 30 millions d'amis, sauf que les mâles sont pas castrés, qui se plaignent qu'à cause de cette initiative, leur bagnole perd de la valeur sur le marché francilien. En revanche, que leurs gosses perdent de la valeur sur le marché de la vie, ça, ils en tricotent les poils de teub. Y a pas de souci. Les mecs, tu leur dis que c'est la fin du monde dans 3 jours. Ils gueulent parce qu'ils viennent tout juste de reprendre un abonnement télé 7 jours. C'est incroyable. Ah là là, Paris. Mais la maire de Paris a également appelé les automobilistes à faire preuve de civisme en les invitant à privilégier les transports en commun et le covoiturage. Madame Hidalgo, sauf votre respect, va falloir vous accrocher parce que le civisme et les Parisiens, c'est comme le point G. Hein. C'est pas que ça existe pas, c'est que c'est tellement rare de tomber dessus qu'en général, tu l'as dans le cul avant de l'avoir trouvé. Autant pour moi, pardon, ils ont mis en place une amende pollution à 22 euros si on paye tout de suite. Pardon, mais c'est pas très dissuasif, hein, 22 euros. Je propose quelque chose un peu plus fort, faut marquer le coup. Je sais pas, que le gars qui roule un jour de circulation alternée, on lui mette...
C'est ma terre où je m'assois.
dans la tête pendant 48 heures, ça va lui faire du bien. Ça, c'est dissuasif. C'est quand même fou qu'on sache pas réduire ou transformer nos particules fines en 2017 alors qu'on sait recycler du pipi. Ah, je vous avais dit que ça viendrait. Parce que oui, Thomas Pesquet dans l'espace, il sait recycler son urine. D'accord, il y a aussi Donald Trump. Non, Thomas Pesquet, il filtre son urine par le biais d'une machine. Il peut la boire, il en fait de la salvetta, le mec. C'est formidable. Enfin bref, à la vôtre. En tout cas, écoutez, j'ai pas la solution. Je sais un truc, c'est qu'il va vraiment falloir se bouger le cul si on veut respirer un air vraiment sain. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est l'air vraiment con.
Bravo!
Bravo! Allez, salut! Ceci dit, il paraît que depuis que les voies sur berge sont fermées, tu parlais de la chère maire de Paris, la pollution a augmenté.
Bah oui, c'est terrible.
Contrairement à... Bah non, c'est pas ça, c'est que ça fait plus de bouchons ailleurs. Donc, oui. Voilà.
Je cherche une contrepétrie depuis 6 mois avec voies sur berge. C'est bois sur verge, mais je.
Ouais, bah
je
ça y est, tu l'as. Tu l'as, tu l'as.
On n'a pas le jeu de mots.
En plus, elle passe près du quai Branly.
Autrefois, on appelait ça la rue de Monquet.
Très bien, voilà, donc on a fait le tour.
Bien,
merci.
Voilà.
On est à l'antenne à nouveau, avec Olivier Marchal qui est notre invité. On va évoquer quelques années de sa vie en musique. En 85, Olivier Marchal, écoutez. Vous écoutiez vraiment de la musique ? C'est-à-dire vous êtes, la musique est importante dans votre vie ? Vous l'écoutez, je sais pas, à la maison, en voiture ?
J'écoute beaucoup de musique de film, en fait. Voilà.
Des BO de films ?
Ouais, ouais.
Sauf qu'il y a une tendance maintenant au cinéma où les BO de films sont de plus en plus faites de best-of, de chansons déjà existantes.
Ouais, enfin... Ouais, enfin moi je travaille avec Erwan Kermorvan,
ouais, c'est créez, ouais.
Depuis MR73, c'était Bruno Coulet, après Erwan il a fait tous mes autres films derrière. Et de temps en temps, on injecte oui, quelques... Dans les Lyonnais, il y avait Deep Purple,
ouais.
On avait aussi... On avait mis une chanson de Beko quand il l'étrangle sur Beko.
Voilà. Et Shadé, alors pourquoi
et Shadé, parce que c'est 84-85 et c'était un tube. Ouais. Et c'est vrai qu'on écoutait ça en boucle. Hein, voilà, les soirées en boîte, voilà, on draguait
alors, non,
là-dessus.
Mais vous
ça,
en
voilà.
Soirée, vous n'étiez pas en boîte en 85 parce que vous étiez policier le jour où vous avez demandé de changer, puisque vous étiez à la brigade de nuit dans le 13e arrondissement.
Oui, ouais,
ça. Et vous avez voulu suivre des cours de théâtre.
Ouais.
Au conservatoire du 10e arrondissement. Autrement dit, vous avez demandé à être, je sais pas comment on dit, muté, affecté à quelque chose d'autre pour pouvoir avoir le théâtre en parallèle.
Ouais. Disons qu'ils ont créé des brigades de nuit pour soulager un peu l'activité de toutes les antennes de police et commissariats qui étaient surchargés de boulot. Et nous, comme ça, on avançait le travail. Le matin, ils arrivaient, les cellules étaient pleines, ils avaient tout le boulot de la nuit. Nous, maintenant, on leur a avancé tout le travail et ils ont créé ces brigades pour ça.
J'aime bien, voilà. Les cellules étaient pleines. On avançait le boulot, les cellules étaient pleines.
Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup,
on dirait Michel Simès quand on te parle de cellules aussi, mais c'est pas les mêmes cellules apparemment. C'est pas médical du tout, là.
Et on faisait 4 nuits, on avait 8 jours de repos surtout. Donc,
non, vous êtes crevé surtout à travailler, à faire les 3-8 comme ça, que ce soit faire jour et nuit, acteur et.
Oui, mais on avait une semaine derrière. Après les 4 nuits, on faisait 23h, 9h. Et après, j'allais à mon cours de théâtre, mais j'étais jeune, voilà, j'ai pas besoin de dormir beaucoup, quoi.
Et vous avez tenu quand même 7 ans comme ça?
Oui, voilà.
Ouais, c'est du costaud. Mmh. En 1992, vous écoutiez.
T'avais les mains comme des raquettes, pipi. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de scotch. Pour les replier la nuit.
On va tous pleurer.
Tandis que lui. Ben.
Oui. Léo Ferré avec Pépé, ça correspond en 92 à votre démission de la PJ.
Oui.
À une période plutôt justement de dépression.
Ouais, assez sombre, oui, c'est vrai, oui, parce que je me suis retrouvé sans travail et.
Mais me dites pas que vous écoutez en plus Léo Ferré à ce moment-là.
Non, mais moi, Léo Ferré, j'ai commencé à 13 ans à l'écouter, donc voilà, je l'écoutais en buvant le whisky de mon père en cachette, quoi.
13 ans.
Bah, oui, bah.
Vous préparez vraiment à être flic, hein. Whisky à 13 ans.
C'était déjà l'entraînement. Non, mais je buvais des petites, comme dans les films, je regardais le ciné-club, il y avait des détectives, ils buvaient des whisky, Philippe Marlowe, voilà, ils buvaient du whisky.
Non,
je me mettais des petits trucs pour m'enivrer un peu, puis j'écoutais Léo Ferré la nuit, bon, c'était le côté romantique, désespéré, l'adolescence. l'adolescence, quoi. Voilà, les années merdiques, quoi. Voilà, c'est où on se cherche, quoi.
92, il voilà. y a quelqu'un qui vous repère, il y a quelqu'un qui vous dit, toi, t'as une tronche, t'as une gueule pour faire
disons
du cinéma.
J'avais monté une pièce et on, avec un copain, Philippe Cariou, on était deux et on a été pris au théâtre des Cinq Diamants. Et puis il y a une directrice de casting qui est passée un soir. On jouait un Tchekhov, je crois, et puis qui m'a fait faire 3 jours, et puis après 11, et puis après. Voilà, on démarre par des petites répliques.
Quand on parle de période de dépression, ça donne quoi? Déjà, là, on voit un Olivier Marchand en pleine forme, qui est jovial, qui n'est pas du tout bougon.
Mais
qui
est bien,
pas,
là, voilà,
il est bien.
Il est bien.
Il est connu pire, à
Cannes. Mais quand ça va pas, quand ça va pas. C'est quoi cette vanne là, vous avez connu Pierre Arcana les deux là?
Non, mais parce que j'avais fait une émission avec c'était avec
Daniel.
C'était avec Stéphane Bern et j'étais arrivé directement de la boîte. On était sorti à 9h30 du matin. J'avais enchaîné les bras direct avec eux.
Ouais.
Et c'est vrai que là ils m'ont charrié chaque fois. Après,
j'ai eu droit pendant
des années quoi. Voilà.
Et donc en dépression, ça veut dire quoi? C'est-à-dire là vous voulez voir personne, vous fermez les volets, vous restez chez vous enfermé.
Non, mais parce que la police est un échec. C'est-à-dire moi c'était vraiment ma vocation. J'ai fait 12 ans, j'étais capitaine de police, j'avais fait le stage du raid, j'avais été reçu, je devais partir au raid et j'avais refusé le raid pour être acteur, pour continuer et là j'ai démissionné sur un coup de tête parce que j'ai eu quelques problèmes avec l'inspection générale des services et du coup je me suis retrouvé à faire le portier au Hard Rock, d'ailleurs je vous avais reçu Nagui, je me souviens. Et vous aviez été très sympa. C'est moi qui faisais la porte.
Vous êtes sûr, c'était Nagui?
Ouais, c'était
sympa. Nagui venait, il y avait eu 3-4 mecs sympas. Il y avait eu Nagui, je dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est vrai que je l'aime bien depuis, parce qu'à la porte, les cons dont je parle, on les avait vraiment. Il y a Johnny Hallyday qui avait été super, Alain Chamfort et Barry White.
Mais je savais pas comment c'était.
C'est le Hard Rock.
Moi, il m'avait mis à la porte avec, on était deux physionomistes, quoi. Bon, évidemment, les VIP rentraient. Et voilà. Et on se connaît de là, en fait. Et Farrugia aussi, Dominique Farrugia qui avait été adorable. Après, je ne citerai pas les autres un peu plus déplaisants.
Ça fera l'objet d'un livre ou d'un film.
Non, ça aussi, ça ne vaut pas le coup. C'est un échec, la police est un échec. Et le cinéma, le théâtre, j'étais pas vraiment dedans, donc j'avais tout raté pour rien. Quoi. Je me suis dit, voilà, et c'est à force de travailler.
Vous dites la police est un échec, mais après la police, j'allais dire, a nourri votre imaginaire, a nourri tous les scénarios, donc vous devez beaucoup aussi à la police.
Non, mais bien sûr, c'est une critique, hein, je reviens. Sera à refaire, je referai la même chose.
Parce qu'il y a des points communs avec des gens comme Norek, par exemple.
Oui, bien sûr, qui écrit très bien.
Qui est un formidable auteur.
Super auteur, oui.
Et qui ont un peu la même trajectoire avec... on a l'impression qu'ils ont vu des choses tellement dures aussi.
Oui.
Quand ils étaient flics,
ouais.
qu'ils ont besoin peut-être après de respirer.
Tout de suite, moi j'ai écrit des nouvelles tout de suite. Voilà, j'ai commencé à écrire à 20 ans, dès que je suis rentré dans la police, j'ai commencé à mettre ça sur le papier. Ouais.
C'est ce qui sauve en fait. C'est ce qui vous a sauvé vous d'écrire.
Ça m'a pas vraiment sauvé moi. Je peux pas dire que je suis quelqu'un qui était sauvé quoi.
Vous avez fait des beaux films.
Donc on m'a maintenu. Ça m'aide à me supporter, mais enfin bon, pas pour ça que je vais mieux quoi. Voilà.
Mais en tout cas, le réflexe de se dire, je vais noter ce qui se passe, ce qui arrive pour avoir les détails et qu'elle reste présente.
Ouais.
C'était des notes aussi bien de ce qui se passait que
des
ambiances.
C'était des nouvelles. C'était des nouvelles.
D'accord.
Mais si je vous fais lire les nouvelles, vous n'allez pas au bout de 10 pages. Non, c'est ultra noir, quoi. C'est ultra glauque. Mais après, j'étais à la crime en plus, donc je racontais. Un peu tout. Non, mais c'est dur, quoi. Voilà.
On arrive au 36 Quai des Orfèvres. En 2004, vous écoutiez.
Aussi vrai que de loin, je lis. J'apprends tout seul à faire mes heures. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser. Si seulement je pourrais lui manquer.
Et comment cette chanson débarque dans votre MP3?
J'aime bien Calogero, moi. Après, je suis un peu midinette aussi. Hein. Y a des actrices comme Thomas Fersen, Calogero. Moi, j'écoute un peu tout, Nougaro.
Vous avez un côté cocotte un peu.
C'est vrai, je suis un homme. Et puis, Calogero, il a fait la musique du générique de Flic, la série que j'avais écrite pour TF1.
C'est vous qui êtes allé chercher?
C'est une idée de la production.
D'accord.
Et moi, je trouve ça super bien. Mais moi, j'aime bien Obispo, j'aime bien tous ces mecs aussi. Je trouve qu'ils ont du talent, quoi.
Après, et Daniel Auteuil et Gérard Depardieu, donc, ont dirigé l'Entrantis Quai des Orfèvres. Deux monstres sacrés du cinéma. Puis vous êtes inspiré de deux affaires qui avaient secoué le monde de la police. Il faut toujours qu'il y ait la vérité. Il faut qu'elle soit présente dans les films. Ça sert à rien de faire quelque chose de totalement fictionnel, totalement imaginaire.
Non, c'est d'ailleurs qu'entre les histoires qu'on vit, celles dont on entend parler, j'ai fait un mix de tout ça. Et puis après, évidemment, moi, le fond est vrai, la forme ne l'est pas. Les flics sont toujours lookés, ils sont sexy, ils ont des belles voitures, ils ont des Alfa Romeo, des BM. Enfin bon, voilà, c'est
cliché. Ouais,
c'est ce qui... bah, cliché, je sais pas. C'est que c'est... moi, je pars du principe que le cinéma, il doit être plus beau que la vie. Alors parfois, c'est ce qu'on me reproche, mais. Je vais pas me comparer à lui, évidemment, mais quand Sergio Leone, il était une fois dans l'Ouest, avec les cache-poussières et tout, il invente une mode, qui a été reprise par plein après derrière. Après, moi, on m'a reproché que mes flics, ils aient des longs manteaux noirs avec marqué Berry dans le dos, mais c'est ce qui a fait aussi le petit truc, des petits détails comme ça, voilà. Moi, je travaille avec des directeurs artistiques et on essaie de donner une cohésion artistique et un peu de beauté à l'image, quoi.
Et ça a permis un bel accueil à New York, en plus.
Ouais, on l'a présenté à New York, ouais, puis il y avait un remake qui était prévu avec De Niro.
Mais
et ben voilà, les Lyonnais pareil, ça devait être avec Liam Neeson et puis Gary Oldman.
Oh ouais,
j'étais super content, moi. Et puis les Américains, ils bloquent quand ils voient qu'un film a marché, que l'histoire leur plaît. Et après, vous voyez, ça va pas plus loin parfois. Hein. Donc
la télé arrive justement en 2009 avec Braco et vous écoutiez.
Oh, la belle vie.
Déjà.
Sans amour.
Je perds des points là ou pas, non?
Ah non, c'est génial, j'adore. Génial, j'adore.
J'adore.
Non, mais moi je suis old school, hein, moi vous savez, je sais
pas. Belle vie.
Belle vie de Sacha Distel. Oui. Et Braco, c'était une belle vie pour vous de découvrir. Alors c'est des moyens télécanal, c'est peut-être plus luxueux, non j'imagine.
Bah disons que Braco,
en termes de moyens.
Moi je l'ai fait au départ, ça devait être un long métrage. Et puis après j'en ai parlé à un producteur, il m'a dit ça serait bien de le décliner en série télé, puisqu'il y avait tellement de choses à raconter. Et c'est vrai qu'on est arrivé dans un contexte social qui commence, qui amorçait un petit peu tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que le public a adhéré à ces bad boys, ils ont vu des flics auxquels ils avaient envie de ressembler. Ils en avaient un peu marre de commencer à subir le côté assez pisé.
Ah, quatre grosses personnalités aussi.
Le casting génial. Non,
bien sûr, bien sûr. Non, mais Braco, pour moi, c'est une expérience. La saison 1, hein. C'est une expérience inoubliable.
Ça après, personne n'écrivait le scénar pour les autres saisons.
Je sais pas.
Vous savez quoi, j'ai regardé la 6.
Un commentaire.
Et tout de suite après, j'ai regardé la 1, encore une fois.
Ouais.
Pour faire avaler la pilule.
Pourquoi une telle différence
Je sais pas, il faut demander... Je sais pas le droit d'en parler.
Faudrait qu'on ait un spécialiste des séries pour nous en parler.
Eh ben voilà, à la Carazé. Oh, enchaînement. Tu dois faire de la radio, t'es formidable.
Ah, je vais y penser.
À la Carazé signe les nouveaux feuilletonistes. C'est publié chez Fantasque. Merci Alain d'être là.
Mais c'est un plaisir.
Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec Braco alors? Genre, il y a une saison qui est bonne.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Braco? Ce qui se passe avec énormément de séries françaises. On parle pas en termes de séries, on parle en termes de mini-séries. À savoir qu'en France, on ne voit pas les choses sur la longueur, on voit les choses sur, allez, on en fait une saison et on verra l'année prochaine.
Maintenant, justement, lui, on dit il y a de quoi faire une série, ne restons pas sur un one-shot.
Regardez quasiment toutes les séries. À chaque fois, à chaque saison, on change tout. On change le scénariste, on change le réalisateur, on change tout le monde. Regardez Mafiosa. Chaque année, c'était quelqu'un différent. C'est un peu comme les films Alien, dans lesquels, à chaque fois, il y avait un réalisateur différent, donc un style différent.
Ça, c'est pourquoi,
les séries françaises, c'est beaucoup
c'est
comme
pour,
ça.
Pour oxygéner un peu le projet, pour peut-être
amener des idées
neuves.
En France, on a des problèmes dans le domaine des séries. On a le problème à industrialiser la série. On a un problème à dire que on va bloquer des gens, acteurs, scénaristes, réalisateurs, pendant 5, 7 ans, si ça marche, et ils vont faire que ça 9 mois de l'année. C'est inimaginable en France, alors qu'aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, il n'y a aucun problème, bien au contraire.
Alors c'est vous qui aviez refusé d'être bloqué comme ça par Braco?
Non, ben moi j'ai fait la saison 1, et en fait, après je tournais les Lyonnais, donc je ne pouvais pas faire les deux, quoi. Donc voilà, après on a décidé de mettre en place quelqu'un à la tête de ça, quelqu'un à qui on avait confiance.
Et on avait.
D'accord. Je n'irai pas plus loin.
Bah non, non plus.
Alors Alain, vous êtes journaliste spécialiste des séries télé, fondateur de l'agence 8 Art.
8 Art Global.
D'accord. Le 8e art.
Voilà.
Ah, c'est ça.
Et bah,
très
voilà.
Bien. Et donc vous publiez cette histoire secrète des séries télé. Ça arrivera, en mars.
Absolument.
L'histoire secrète. Et là, il y a les nouveaux feuilletonistes. Comment se porte la fiction française? Tout à l'heure, j'ai dit que ça marchait mieux que les séries américaines. C'est pas moi qui dis, d'ailleurs, c'est une étude.
Et c'est pas trop tôt. Je veux dire, on a quand même, franchement, 15, à chaque fois, 15 ans de retard sur ce que font les Américains. Donc, il y a 15 ans, en France, on s'est rendu compte que c'était, il fallait qu'on change ou la fiction française allait crever. On était un des derniers pays dans lequel c'était la fiction américaine qui dominait les antennes. Et maintenant, en effet, grâce à des producteurs d'une nouvelle génération, grâce à des scénaristes d'une nouvelle génération, grâce à des gens différents, Olivier a démarré, entre autres, à la télévision, une série qui s'appelait Police District. Hein, moi, je m'en souviens bien. C'était très novateur pour l'époque. C'était absolument formidable, c'était une série policière telle qu'on n'en voyait pas. Et ben, petit à petit, des gens se sont habitués à ça, et ça donne des séries Canal, ça donne des séries sur toutes les antennes, que ce soit France 2, que ce soit Un Village Français, par exemple. C'est absolument novateur, c'est formidable, c'est très très bien écrit, c'est très bien produit, ça se continue saison après saison.
Ouais, France 2, les Shérifs qui fait un carton en battant.
Shérif fait un carton, et c'est mérité, parce que c'est intelligent, c'est futé, avec un format archivu, c'est-à-dire le boys girl détective show, comment on appelle ça, un gars, une fille qui sont détectives et tout, enfin, on a déjà vu ça des milliers de fois depuis 50 ans, et réussissent à renouveler un peu le genre, à faire quelque chose de léger, de pétillant et qui adhère avec le public. Voilà. Et puis la fiction américaine, elle, et ça, si on part du principe qu'on a 15 ans de retard, ça va nous pendre au nez, la fiction américaine, elle, elle s'est sectorisée. Plutôt que de parler à 20 millions de gens, elle parle à 5 millions, 3 millions, 4 millions. Elle fait des Westworld, elle fait des This Is Us, des séries comme ça, qui parlent moins à tout le monde, qui sont moins fédératrices. Et qui parlent à certaines personnes en particulier. Il y en a plus de 450 par an aux États-Unis. 450.
Mais quoi, alors on tire trop sur le bout de gras, c'est la poule aux œufs d'or pour eux, et chacun se dit, on va aller sur une niche, on va viser...
Il n'y a pas le choix. Pardon ? De toute façon, il n'y a pas le choix maintenant. Il faut qu'on aille sur une niche. Une série qui va réunir 20 millions de personnes, c'est fini. C'est terminé.
On peut plus faire, je sais pas moi, de Columbo ou de trucs comme ça peut plus exister.
Mais Game of Thrones, ça réunit.
Bah oui, c'est vrai.
Pas 20 millions de personnes, justement. 7, 8 millions, et ça passe aux États-Unis sur une chaîne payante.
Ça passe
sur une chaîne payante. Ouais, ouais.
Mais c'est un carton dans le monde entier. Ouais.
Bien sûr, mais ça passe sur une chaîne Winter payante. Ça ne passe pas sur TF1. Ah, et quand ça passe sur D8, c'est en deuxième partie de soirée. Ça ne
fonctionne pas. Il y a TF1 aux États-Unis aussi. C'est incroyable, ça.
C'est fou. Hein. C'est fou. Mais c'est fou.
Donc la tendance, elle est de...
La tendance, elle est à faire des séries, en effet, un peu plus pointues. Plutôt que de vouloir parler à tout le monde, on veut parler à certaines personnes, en espérant que ça plaise au plus grand nombre. 10% par exemple sur France 2, c'est tout à fait ça. On espère parler au plus grand nombre, mais on s'adresse quand même à certaines personnes.
On s'adresse à peu de personnes, et si d'autres veulent venir, ils sont les bienvenus.
C'est exactement ça. Et de plus en plus, c'est ça.
Enfin, je vois pas où 10% est pointu, pardon. Tout le monde, c'est accessible, il y a un casting de dingue. Avec la bonne idée.
C'est moins accessible que Camping Paradis, tout le monde connaît le camping. Pas tout le monde connaît le monde.
Mais plutôt d'aller vers la facilité.
Laquelle est de marche le mieux, je sais pas.
Plutôt que d'aller vers la facilité, en effet, d'avoir une série un peu lénifiante, on essaie de faire des trucs un poil plus pointus. Vous avez par exemple, en parlant de séries américaines, TF1 passe quelque chose qui s'appelle Chicago Med. Je sais pas si vous avez vu. Non, si justement ça ne marche pas, eh ben ne regardez pas. C'est pas la peine.
C'est la Med.
Et pourquoi... Je veux dire, c'est...
Pardon.
Pourquoi sur Netflix, est-ce qu'on n'a pas assez de séries françaises, justement, de productions françaises?
Parce qu'il n'y en a pas des tonnes, parce que les droits ne sont pas toujours disponibles. Netflix, c'est quand même pas non plus la Fnac des séries télé.
Il y a une offre de séries américaines,
mais ils n'y sont pas toutes. Il y a des questions de droits, ce qui est tout à fait normal.
Et puis, il y a les marronniers aussi en termes de personnages. J'assume devant Olivier Marchand, dit ça. Le premier truc, c'est le policier.
Ouais, absolument. Oh, oui. C'est le genre préféré des Français.
Après, il y a l'avocat. Après, il y a le docteur peut-être. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est... Il peut pas y avoir une série avec un boulanger, par exemple. C'est pas possible.
Ben non, enfin...
Mais il peut y avoir des séries avec des dealers de drogue, il peut y avoir des séries avec des serial killers, des choses comme ça. Les Américains l'ont prouvé, et petit à petit, ça va arriver en France. Sauf qu'on met toujours un peu de temps avant de déclencher. Olivier l'a très bien vécu.
Il n'y a pas des personnages normaux, parce que là, vous citez quoi? Trafiquant de drogue, serial killer. On peut pas sortir de ça non plus?
Si, on peut sortir de ça. Un des plus gros succès de la rentrée aux États-Unis, excusez-moi, je parle toujours des États-Unis, c'est une série qui s'appelle This Is Us. C'est une série, et je vais dire un gros mot pour les responsables de télévision française, c'est une chronique familiale. Ça, c'est terrible. Ça, c'est, vous amenez ça à un responsable français.
Ça, c'est nous, c'est ça?
Exactement, This Is Us. C'est l'histoire de plusieurs familles qui sont liées parce qu'ils sont frères et sœurs. Je ne vais pas tout vous raconter, tout vous dévoiler.
Qui a tué?
Justement, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien. C'est une histoire assez tranquille et c'est formidable parce que c'est super bien écrit, c'est extrêmement bien joué. Il y a une surprise, une révélation dans quasiment chaque épisode qui retourne toute la série parce qu'on découvre qu'en fait, un tel est le frère d'un tel et la sœur d'un tel et qu'en fait, tout c'est ça, ça se passe à des époques différentes, etc. Sauf que ça va plus vite et c'est mieux écrit. Et voilà, c'est une preuve qu'on peut faire des choses absolument différentes. Et simplement en France, il y a une frilosité qui est en train de partir. Petit à petit, qui est en train de d'être balayé. Regardez, il y a encore quelques années en France, Olivier ou n'importe qui serait venu à une télévision avec un projet de série surnaturelle, fantastique ou de science-fiction comme Olivier l'a fait avec Section Zéro, ça aurait été un non catégorique. En France, on ne fait pas, c'est pas possible. Boum, en France, on fait Les Revenants.
Ah, c'était bien.
D'un seul coup, il y a Le Secret d'Élise, d'un seul coup, il y a Section Zéro, d'un seul coup, il y a Au-delà des murs d'Admar sur Arte. D'un seul coup, il y a plein de projets dans le genre.
Bah oui, forcément, il y en a une qui est arrivée et qui a marché, et tout le monde s'est dit, vite, écrivez-moi quelque chose qui soit dans cet esprit-là, j'imagine.
Ouais. Mais il faudrait peut-être justement un peu innover et se dire avant que les autres marchent, anticiper un peu les choses, disant, tiens, ça serait peut-être bien de faire ça.
En termes de diffuseur et donc de producteur, qui prend des risques? Je m'adresse aussi bien à Olivier qu'à Alain. Non, mais est-ce que c'est toujours... c'est les chaînes privées d'abord, les chaînes publiques?
Non, j'ai tendance à dire que tout le monde essaie de prendre des risques parce que tout le monde se rend compte de toute façon que maintenant, il n'y a pas le choix et qu'il faut avancer et qu'il faut avancer dans des domaines différents.
Personne n'a la recette, surtout, en fait, surtout, c'est...
Alors, il y a tout un plan de création française lancé par le service public. Desfiernotes a annoncé qu'il y aurait un nouveau feuilleton quotidien qui arriverait. Là, on tombe dans une autre écriture, dans une autre manière de...
Absolument, produire. Je ne suis pas certain que de faire un feuilleton quotidien sur la pincée fasse monter la fiction française par le haut. En termes de chiffres, en termes de nombre, en termes de quantité, oui, c'est évident. En termes de qualité, je ne sais pas. Je me demande si 6 à 10 épisodes d'une série extrêmement bien produite et créée comme Braco ou comme Section Zéro ne serait pas mieux que 250 épisodes des Feux de l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas certain.
Pourtant, il y a une série en Australie, Neighbours, ça existe depuis des années.
C'est mais des soap opéras, il y en a depuis l'aube de la télévision. Il y en a qui durent depuis 54 ans parce qu'ils ont démarré à la radio. Donc,
Le feuilleton radio.
Bah bien sûr.
Bah ouais, c'était génial.
Bah aux États-Unis, il y a des soap opéras comme Search for Tomorrow, le jour où il y a un titre comme ça. Ça a démarré à la radio et ça a été transposé quand la télévision a démarré aux États-Unis. Ils ont dit, bah tiens, on va faire la même chose. Et les mecs qui étaient derrière le micro, bah ils les ont mis devant un écran et ils les ont fait jouer et ça a devenu un feuilleton qui a duré encore 30 ans. Donc pourquoi pas? C'est une autre écriture.
Alors nous, on est.
Les Anglais en font beaucoup.
On n'est pas envahis. C'est bien qu'il y ait des feuilletons qui viennent de la planète entière, que ce soit du nord de l'Europe ou des États-Unis.
Et bientôt de la Belgique.
Laquelle?
Il y a une série qui va démarrer sur TF1 qui s'appelle Ennemi public. Je crois que c'est le 6 février, je vous lis ça de tête. Regardez-la, c'est absolument formidable. C'est belge. C'est absolument formidable.
Avec mais qui genre déjanté
C'est le sujet, est absolument essentiel.
C'est arrivé près de chez nous, c'est quoi?
C'est l'histoire d'un violeur d'enfants qui a purgé sa peine.
C'est une comédie. Quoi.
Qui a purgé sa peine.
Ah bon, ça va.
Vous le dites en souriant.
Oui, parce que vous allez voir la suite. Qui, évidemment, ayant purgé sa peine, veut revivre un peu, se réfugie dans un monastère. Ah. Et toute la série montre justement les problèmes liés à le village qui va se liguer contre lui, les moines qui vont lui faire la gueule, les gens qui vont vouloir...
Mais c'est une histoire vraie ou pas?
C'est à Belgique.
C'est
la femme de Dutroux.
Exactement. C'est plus ou moins inspiré de l'histoire de la femme de Dutroux.
Son épouse s'est réfugiée dans un monastère.
Ouais. Tout à fait. Et qui est en passe justement aux habitants du village qui veulent se faire justice eux-mêmes face à ce type qui a purgé sa peine et ainsi de suite. Et au même moment, il y a un enfant qui disparaît dans le village. Et je vous en dis pas plus.
La tuile.
C'est vachement bien.
Oh là,
c'est vachement bien.
Comment il vend bien, Alain Carazé?
Parce que je l'ai vu et que c'est vachement bien. Donc,
d'accord.
Pourquoi vous écrivez pas des séries? Parce que là, vous racontez vachement bien.
Parce que justement, je préfère que ce soit des gens de talent qui le fassent. Moi, j'en vois trop et je serais beaucoup trop influencé.
Est-ce que les séries françaises peuvent s'exporter ou est-ce qu'elles s'exportent?
Elles s'exportent.
Très bien.
Les Revenants, il y a eu une version américaine. Elle n'a pas duré longtemps, mais quand même, il y a une version américaine.
Engrenage.
Et Engrenage.
Un village français, ça se vend.
Ça se vend dans le monde entier et pratiquement toutes les séries françaises sont, comme Olivier le disait vis-à-vis des films, acquises pour en faire des remakes étrangers, qui se font ou qui se font pas. Même Les Hommes de l'Ombre, la série politique française, a été acquise pour en faire un remake. Pratiquement toutes les séries françaises, à partir du moment où il y a une idée un peu originale, un thème un peu original qui sort du policier.
Sous le soleil est passé sous le nom de Saint-Tropez partout.
Les droits n'ont pas été achetés. C'est la série en tant que telle qui a été diffusée. Et vous savez pourquoi? parce que ça rentre complètement dans le style soap-opéra de toutes les chaînes du monde entier.
C'est ça, très bien. Merci mille fois, Alain Carazé. Vous allez à Luchon ou pas pour le festival du film?
Eh non, il fait trop
invité.
Froid.
Très bien. Ah, il fait trop froid.
Je suis invité en plus, mais il fait trop froid.
D'accord. Il signe donc les nouveaux
feuilles. Monsieur Capricieux.
En plus, je les vois. Moi, j'ai des liens aussi. Je les vois à Paris.
Daniel Morin, on voit bien que la fiction Made in France a un bel avenir. On peut être fier d'ailleurs d'avoir des auteurs, des réalisateurs, des comédiens comme ça qui portent la fiction.
Oh la vache! Oh, c'est beau ce qu'il dit! C'est sublime, c'est beau comme Mimi Mathy dans un porno. Ça donne envie de faire l'amour à sa télé ou bien de la détruire de rage, avec puissance à la fois. Ah non, monsieur Guy, vos convictions, tout comme Mimi Mathy dans un boulard, c'est pas très malin, hein? Non. Je ne suis pas fier du succès de la fiction Made in France. Non, je ne veux pas l'histoire d'une assistante sociale originaire de Limoges qui décide de changer de vie à Vierzon parce que son mari l'a trompée avec une jument. Non, je ne veux pas voir Loulou la brocante qui se prend pour Ayrton Senna, agrippée à son volant en roulant à 12 km/h sur une départementale avec comme seule cascade son dentier qui tombe dans un virage. Non, pas de camping paradis avec comme intrigue le savon des douches qui a disparu. Alors on soupçonne le camp de gitans installé à côté du camping. Mais en fait, non, c'était pas les gitans, c'était un raton laveur homosexuel qui avait volé le savon pour jouer à Morandini avec ses copains dans la rivière. En fait, au risque de vous choquer, j'aime l'excellence, monsieur, j'aime l'ambition. Moi, ce que j'aime, c'est le gros téléfilm américain avec de la grosse bagnole, du gros flingue, de la grosse biatch. Moi, ce que j'aime, c'est les téléfilms allemands tournés dans les années 70 avec des flics coiffés comme des garçons bouchers qui portent des lunettes triple foyer et qui, pour déjeuner, mangent des sandwichs à la choucroute et des flancs à la bière. Moi, je veux du spectacle, je veux du show, je veux du rêve. Désolé, mais le téléfilm français m'ennuie, il m'endort. Sauf Mimi Mathy dans un boulard. Vous avez tout faux, monsieur Guy. Désolé, encore une fois, vous avez dit
n'importe quoi. Olivier Marchal et Francesc Capitanis. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Gamboudali.
Bonjour à tous.
Alison Wheeler. Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Bonjour à tous. Et Charlotte qui est au clavier. Et notre invité est Olivier Marchal. Président, donc, de ce festival du film de Luchon du 1er au 5 février, président d'un jury avec ses 8 jurés, vous aurez la voix prépondérante, votre voix compte double, vous le savez déjà ou pas?
Je sais pas. Non.
Ah bon?
Non, je pense président. Qu'on peut influer, oui, mais je sais pas si...
Vous pouvez donner une gifle si quelqu'un n'est pas d'accord avec
non,
vous.
Non, je ne suis pas comme ça.
Vous frappez
pas.
Prenez une arme quand même.
Non, mais arrêtez avec ça. Je suis gentil. Mais...
C'est vrai, c'est un gros nounours. Ouais. Est-ce que vous avez donc déjà vu des séries? Je ne vais pas vous demander si vous savez déjà pour lequel vous allez voter, mais est-ce que vous y allez en vous disant je sais ce que j'ai envie de voir, voilà. J'attends qu'on me surprenne ou qu'on me confirme.
Non, je vais aller à toutes les projos, évidemment. Non, j'attends d'être surpris, quoi. Enfin, oui, j'attends d'être surpris. Mais j'ai pas de pré-choix, déjà, enfin, de pré-intention, quoi.
Le problème, c'est que vous êtes une référence en matière de polar, donc il est évident que n'importe quelle série raconte la présence d'un policier quelconque. Ouais. Vous allez tout de suite voir si, déjà, il y a un bon conseiller ou pas pour.
Non, mais après, enfin, les séries policières, je conçois qu'il puisse y avoir Julie Lescaut, et qu'on connaît Navarro aussi à l'époque. Ça veut dire, même si c'est pas ultra réaliste, non, mais il y a des séries qui sont faites pour un public familial, et puis après des séries plus dark comme les miennes qui sont faites qui s'adressent plus à des vrais initiés ou à
crédible,
des jeunes. Quoi,
être crédible, c'est pas important pour vous. La fiction peut se permettre de ne pas être crédible.
Il y a très peu de fictions qui sont crédibles. Rien n'est crédible. Même le commissaire Moulin sur lesquels j'ai travaillé, il n'y avait pas de commissaire avec des pins, des blousons de moto qui mettaient des bouffes à tout le monde toutes les 10 minutes. Non, mais
c'est l'important,
pas.
C'est de rentrer dans un univers.
Après c'est l'histoire et puis c'est là le fantasme un petit peu du c'est provoquer le fantasme chez le spectateur.
Alors il y a nombreux prix qui sont décernés. Il y a des prix d'interprétation, des prix de réalisation, des prix, c'est ça?
Oui.
D'accord.
La meilleure musique, enfin, je crois qu'il y a le meilleur film, et le comédien. Je crois qu'il y a ici, ils font les espoirs cette année, ou jeunes espoirs et tout. Mais là, c'est plutôt pas mal. Hein.
Et on va saluer Serge Moati, puisqu'il est président de ce festival de Luchon qui démarre du 1er donc au 5 février. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Ah, quand même.
C'est temps.
Et aujourd'hui, c'est avec joie qu'on reçoit celui qui a donné ses lettres de noblesse et de frisson à la série policière française.
Ça y est.
Bon, c'est vrai qu'avec Julie Lescaut, il y avait un rythme de fou. Mais pas comme chez Olivier Marchal. Olivier Marchal, il t'a révolutionné le genre polar. Là où il y avait un canif, Olivier Marchal, il te met une machette. Là où il y avait un flingue, Olivier Marchal, il te met un fusil à pompe. Là où il y avait en arrière-plan une pute un peu bourrée, Olivier Marchal, il te met un travelot qui a un œil crevé. Là où il y avait une scène d'intimidation à base de claques dans la gueule, Olivier Marchal, il a remplacé ça par une séance de mutilation génitale. Là où il y avait un cadavre allongé au sol avec une petite trace de sang, le médecin disait au flic, il a été abattu à bout portant d'une balle dans la tête. Olivier Marchal, lui, fait dire au Toubib, le gars était torturé 3 jours au fer à souder. On lui a arraché les jambes qu'on a mis à la place des bras. Les bras, ils sont dans la bouche, une vraie boucherie. Je crois que les agresseurs sont des militants écolos. Avant de partir et de le laisser mourir, ils ont arraché le cerisier du jardin pour lui planter dans l'anus. Ça, c'est la touch Marchal. Olivier Marchal, il ferait du porno, il filmerait les actrices à l'intérieur. Bref, Olivier Marchal.
Oh, pas ça, non, Daniel, non, ça, non.
Olivier Marchal, il te vend du rêve. Il vend du rêve aux spectateurs. Moi, ces acteurs, hein, dans Braco, Jean-Hugues Anglade, il a une mine. Mais une mine, on a l'impression que la dernière fois qu'il a dormi, le président en exercice était Giscard. C'est pas des cernes qu'il a, c'est des traces de pneus. On a l'impression qu'il est tellement pourri dedans que même la grippe, elle voudrait pas y aller. Et puis Olivier Marchal, il nous a amené un vocabulaire plus fleuri qu'avant. Hein ? L'affaire Pénélope Fillon dans un film d'Olivier Marchal, je te promets, elle avoue tout. Allez, avoue, les 500 000 balles, c'était pour un emploi fictif. Mais non, enfin, pas du tout, je... Rien à foutre que tu sois la prochaine première dame. Moi, je suis là pour boucler une enquête de merde en plus, parce que crois-moi, j'en ai rien à carrer des vieilles bourges qui piquent de l'argent aux contribuables pour s'offrir du botox et une villa à Saint-Trope. Moi, mon kiff, c'est le fait divers, avec au moins 30 morts, du trafic d'êtres humains et de la maltraitance animalo-féministe. À vous ! Mais enfin, je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit. T'as 3 secondes pour me dire la vérité. Au bout de ces 3 secondes, je te fous à poil dans une cave, je te frotte le corps avec du canigou et je laque 5 bergers allemands qui n'ont pas bouffé depuis 30 jours. 1. 2. Oui, ok, j'avoue tout, j'ai touché les 500 000 balles en foutant que dalle. C'était totalement fictif, les emplois. Bon, affaire classée. Client suivant. Asseyez-vous, monsieur Balkany. Ça, c'est de l'enquête. Une enquête à la Olivier Marchal. La même enquête menée par Navarro. On vient d'en parler, ben, c'est pas la même chose.
Bonjour, c'est vous Pénélope ?
Oui.
J'ai connu une Pénélope en 63 à Casa. C'était une chic fille. Bon, vos 500 000 euros, Pénélope, c'était légitime ou bien emploi fictif ?
Légitime.
Ok, affaire classée, il est midi. J'ai la dalle, je vais manger des boulettes.
Il y a moins d'action, quoi. Alors, le truc cool, le truc hyper cool, ça aurait été un épisode de Navarro, réalisé par Olivier Marchal.
Ah ouais ? C'est toi, Pénélope ?
Oui, mais je tiens à préciser... Mais enfin, monsieur, je ne vous permets pas...
Ferme la morue, je m'appelle Navarro. Il est 11h55, j'ai une dalle de fennec. T'as 5 minutes pour que je te balance et que je sois pas en retard pour le couscous de Tata Raymonde.
Monsieur Varro, je vous jure...
Varro, mon nom c'est Navarro, espèce de crevure antisémite. La vie de ma mère, je vais te plonger la tête dans la friteuse à beignets.
Commissaire Navarro ?
Quoi, qu'est-ce que tu veux, espèce d'enculé de ta race ?
Allez-y doucement quand même, c'est la prochaine première dame de France.
Mais qu'est-ce que tu viens me faire chier, fils de pute ? Mange tes morts, laisse-moi bosser, suceur de nazi. Nardine à moi, que te sers pas d'ici, je t'arrache les yeux. Ou je t'en fais des boulettes pour tata Rachel.
Ok, boss.
Bon. Il est midi moins 3 secondes, Pénélope. Maintenant, je mets France Inter. Je te préviens, si t'as pas avoué, quand tata Laetitia Gaillet elle commence à bavasser, je te coupe ta tête à toi. 3, 2, 1...
Ok, c'est bon, j'avoue, j'ai jamais bossé de ma vie.
Ah, tu vois quand tu veux. Je savais que t'étais une chic fille. Allez, viens, je t'emmène chez tata Raymonde.
Ben voilà, on a de l'action, on a le style Olivier Marchal, mais aussi la douceur de vivre de Navarro. Demain,
Albert Alcouin et Némora, merci.
Avec Nagui.
Il y aura le prix de la meilleure fiction unitaire, le prix de la meilleure série, le prix du meilleur programme court télé. L'interprétation féminine sera récompensée comme l'interprétation masculine, les espoirs également, la réalisation, les scénarios ou scénarii pour les puristes. La musique originale également sera récompensée, ainsi que la photographie chère à Daniel Morin, tous ces prix.
Belle photo, ça change tout. Hein.
Exactement. Remis au festival de Luchon avec comme président du jury Olivier Marchal, pour lequel vous avez préparé un brouillon de culture. Particulier, Leïla.
C'est parti, Olivier Marchal, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, histoire d'apprendre à mieux vous connaître, et on commence avec un son qui devrait vous faire plaisir.
My life's a disaster song, because I spend all my time chasing guys like you around the block.
I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me.
C'est un très court extrait, mais qui résume bien Hit de Michael Mann, avec dans l'ordre d'apparition dans l'extrait, Al Pacino et De Niro. Et en relisant vos interviews, Olivier Marchal, vous citez beaucoup Michael Mann comme étant un de vos modèles. Et j'ai remarqué que c'est un des plus jeunes, ou en tout cas des plus récents, car les autres, et vous l'avez fait en début d'émission, vous parlez beaucoup de Clouseau, de Melville, et vous aviez même déclaré en 2005 à Écran Large que vous préfériez justement ces cinéastes-là, que les films maintenant d'une heure quarante maxi, on raconte rien, qu'on voit toujours les mêmes gueules, deux types comme ça, qui jouent souvent comme des patates, et que vous déclariez également qu'on n'était pas gâtés depuis 15 piges dans ce domaine-là, dans le cinéma. Est-ce que vous êtes toujours aussi radical?
J'étais ivre. J'étais à Cannes aussi à la sortie de la boîte.
Non, mais vous êtes toujours aussi radical là-dessus, sur le côté, on ne fait pas de bons polars vraiment.
Non, mais après, ça va. Je vais passer pour un mec qui est au-dessus des autres et ce n'est pas du tout le cas. Moi, un garçon comme Florent Emilio Siri, qui est un super réalisateur, le Messrine de Richet était très réussi. Ouais. Voilà. Après, je dis que globalement, c'est vrai qu'il y a des polars un peu branchouilles avec des histoires à dormir debout. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on soit dans l'image et qu'on soit pas dans... Il n'y a pas de sentiment. On fait du polar cru, comme ça, tourné comme des clips.
Et en oubliant le côté humain.
Et le côté, l'émotion, quoi. C'est ce qui me manque, ce qu'il y avait dans quand on revoit Le Clan des Siciliens. Ouais. Moi, je me fais avoir à chaque fois. J'ai dit, tiens, je vais regarder les 10 premières minutes. Et après, je suis parti pour 2 heures. Enfin, voilà, Mélodie en sous-sol, les films de Verneuil, enfin, les Melville, n'en parlons pas. Et c'est vrai que Hit, bon, Michael Mann, moi, bon, c'était un... Et je me compare pas, évidemment, à ce géant de cinéma, comme avec William Friedkin. J'ai eu la chance de rencontrer Sidney Lumet, de lui rendre un hommage au Festival de Deauville. Je parlais avec ce monsieur qui avait 84 ans, qui, moi, Serpico, je l'ai vu 7 fois. J'ai vu ses films.
Génial, Serpico.
Voilà, c'est des gens qui m'ont inspiré, quoi. Enfin, mais il y avait un fond. Ce que je regrette, parfois, c'est qu'on n'attache pas assez de fond dans certains polars qui sont faits, quoi. Voilà.
Et du côté américain, justement, dans ce qui sort, ouais. Qu'est-ce qui attire votre attention? Est-ce qu'il y a une patte?
Moi, j'ai une affection pour un garçon comme Ben Affleck, par exemple. J'ai vu son dernier polar, là, moi j'ai trouvé superbe, qui est un film de, vous voyez, j'avais adoré The Town, quoi. C'est les polars. Après je dans les réalisateurs américains, voilà, je sais pas, vous me prenez de court là, il faudrait que je réfléchisse. J'aime beaucoup, il y a des Christopher Nolan, il y a des types comme ça, mais c'est pas forcément des polars 2 quoi non plus. Ouais. Mais moi j'adorais aussi Mike Figgis, quoi, ce réalisateur.
Est-ce que vous lisez aussi beaucoup de polars? Est-ce que c'est le genre polar en littérature, ouais, et vous attire? C'est pas nécessairement obligatoire.
Non, je lis. Je lis beaucoup. J'essaie de lire un à deux bouquins par semaine. Non, ça va de John Fante. Évidemment, on parlait d'Olivier Norak. J'ai lu son dernier roman, qui est super. Je lis James Harrison. Voilà, j'essaie de varier un petit peu.
Et quand vous lisez les livres, c'est pour chercher une éventuelle adaptation.
Souvent, ouais, maintenant, oui, c'est vrai que j'essaie de. Mais en tout, j'essaie de trouver une belle histoire d'amour aussi à raconter. Je lis aussi dans ce sens.
Quoi. Vous lisez, ouais, intéressé.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je cible les romans. Ouais.
On poursuit avec un autre son.
Je suis pas un acteur de film policier, je suis pas un acteur de film polar, je suis un acteur tout court. Mais c'est vrai que pendant les années 70-80, alors que le polar, le film policier, était à la mode, j'ai profité, si vous voulez, c'est une espèce de rencontre entre un style et l'acteur que j'étais dans les années 70-80, qui a fait que je suis devenu cette espèce de, entre guillemets, c'est pas moi qui l'ai dit, héros incontournable du film noir.
Voilà, c'est qui une de vos idoles. C'est Alain Delon. Delon qui aurait dû ou pu jouer dans un de vos films, c'est Les, ouais, Lyonnais, justement. Ouais. Ça s'est pas fait puisque c'est Gérard Lanvin qui a tenu le rôle. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Comment ça s'est passé, justement? Vous l'avez approché?
Non, c'est-à-dire Alain Delon, c'est bon, moi c'est un de mes grands ratages. Hein, c'est non pas que je regrette, Gérard est fabuleux dans le film, mais au départ, je devais avoir Delon, Giraudeau et Lanvin. Je devais avoir les trois. Delon devait faire Momo Vidal, Giraudeau devait faire le rôle de Tchéky Cario et Gérard devait faire le rôle de Patrick Catalifo du flic. C'était quand même une belle distribution. En tout cas, j'ai eu la chance de les avoir à table tous ensemble. Bon, après, il y a eu des petits différends avec Alain, quoi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, c'est un monsieur que je respecte profondément. Mais c'est lui qui avait fait savoir dans deux magazines qu'il voulait, le seul avec qui il voulait travailler, c'était moi. En France. Donc évidemment,
c'est une belle déclaration.
J'avais les Lyonnais en projet. J'ai dit, voilà, c'est l'occasion de parler d'un monstre du grand banditisme en faisant jouer un monstre du cinéma français.
Mais vous n'aviez pas le même film en tête ?
Non, disons qu'il y a eu un ratage, il y a eu une soirée un peu difficile et puis on s'est tous dit que ça allait être très compliqué.
Pardon, est-ce que le ratage est humain ou le ratage est professionnel ? C'était un problème sur la profession ou simplement vous n'êtes pas entendu humainement ?
Non, on s'est pas entendu. Voilà. Les producteurs aussi et tout ça, ça a été un moment un peu particulier.
Non, parce qu'on a compris que vous aviez besoin de bonnes vibrations, de bonnes ondes sur un plateau pour tourner.
Non,
donc
mais je pense que le problème d'Alain Delon, c'est que je pense qu'il a tourné avec les plus grands. Hein, on va pas refaire quand on a tourné avec Visconti, avec Verneuil, avec Melville. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il est dans un embarras, même s'il aime un cinéma qui ressemble à ce qu'il a aimé, qui est peut-être mon cinéma à moi. Mm-hmm. C'est que après, je crois qu'il a peur de finir sur avec un rôle principal, il a peur de finir sur une grosse tarte à la crème, de se dire que le film va pas marcher. Et je pense que c'est la peur qui fait que il a des réactions. C'est ce que son entourage m'a dit. Voilà, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Je pense qu'il a peur de tourner puisqu'il ne tourne plus. Alors,
mais il va rien faire alors parce que si.
De toute façon, le problème, il est là. C'est
rien qui mette en danger en tout cas.
Ouais, voilà, c'est
non,
ça.
Mais si vous voulez tourner avec Olivier Marchal et qu'au dernier moment il se dérobe en disant j'ai peur que ça marche pas. Après...
Ouais, je crois qu'inconsciemment il avait.
Et j'ai rêvé où il y avait Isabelle Adjani qui était dans la boucle à un moment.
Non, je devais faire un autre film, mais comme acteur.
Mais tu as le droit de rêver, Isabelle Adjani.
Oui, ça m'arrive.
On en rêve tous.
Ouais, ça m'arrive.
Et je finis avec un cadeau pour vous. On parlait de western tout à l'heure, ce que j'imaginais, c'était un genre qui pouvait vous convenir. Oui. Je vous offre Jolly Jumper ne répond plus, les aventures de Lucky Luke d'après Maurice. Ouais. C'est signé Bouzard et aux éditions Dargo. Ça commence par un événement simple. Jack Dalton est en prison et il fait la grève de la faim.
C'est rare, ça.
Il fait la grève de la faim pour une raison qu'il ne veut pas divulguer. Alors, on appelle Lucky Luke au secours pour voir ça de plus près. Et Lucky Luke est un peu embêté parce que Jolly Jumper ne veut plus lui parler. Il essaye tout. Il y a une petite dépression dans l'air. Et Lucky Luke doit retrouver ce Dalton pour essayer de le faire parler lui aussi. Et il se retrouve toujours dans cette situation un peu tordante entre les aventures des Dalton. Voilà, c'est un bel album et c'est l'occasion de dire que le festival international de bande dessinée d'Angoulême a ouvert ses portes aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et qu'on sera parmi les 10 albums finalement sélectionné par le jury, lequel remportera le Fauve d'Or.
Et Bouzard, c'est un excellent dessinateur. Il dessine dans Le Canard Enchaîné et dans Fluide Glacial, que je veux dire au passage.
À propos de festival, il y a celui de Luchon, donc qui démarra du 1er au 5 février, avec le président du jury, qui est notre invité, Olivier Marchal. Mais il y a aussi tous ces prix dont on a parlé tout à l'heure, mais les prix du public. Qu'est-ce qui se passe quand on voit que les professionnels n'ont pas les mêmes goûts que le public? On a un sentiment d'un désaveu ou au contraire, on se dit, voilà, on est complémentaires, on n'a pas la même analyse.
Non, je pense que on est complémentaires. Ouais. Mais moi,
j'ai toujours préféré le public.
Hein. Enfin, en tout cas, quand je fais des films, je me fais plaisir, mais je pense au public avant tout. Quoi. Moi, c'est le public qui a fait que je continue à travailler. Hein. Je crois que je leur rends bien, moi, les festivals et tout. Moi, je peux passer 2h30 à faire des photos avec tout le monde, à boire des coups avec les gens du coin. Et moi, je préfère être avec le public.
On a fait ensemble des émissions à l'extérieur et c'est vrai que vous aimez être proche du public.
Non, mais comme vous, moi, je suis en Angoulême.
Voici Jaguar dans la bande originale de votre matinée. She won't be loved. Belle Obi-Wan, Jaguar
Mama, bien, hein.
À l'instant, Olivier Marchal est notre invité. Je me trompe ou vous avez la montre de James Bond, Olivier Marchal? Il me semble que vous avez la montre de... C'est pas bon, bah, je crois que c'est la montre de James Bond.
Bah, ça va, toi, t'as la bagnole. Vous.
Non. Voici la cascade de questions pour Olivier Marchal. Des questions courtes avec des réponses courtes.
Olivier, admettons, vous êtes ministre de l'Intérieur. Première décision à prendre pour améliorer les conditions de travail de vos anciens collègues.
De l'argent.
Je change pour l'automobile. Voilà, je leur mets des grosses bagnoles et puis je change les uniformes aussi. Mais à l'américaine, quoi. Cuir, sexy, fusil à pompe et grosses bagnoles.
Ça, c'est le marais, voilà,
comme dans Section Zéro.
Pas plus d'effectifs.
Si, bien sûr, mais non, mais ça va, tout va ensemble.
Changement de voiture et changement de fringues.
Et les salaires, et hausse des salaires.
Ah, voilà. Daniel Morin.
Olivier, autour de cette table, qui a le plus une tête d'assassin?
C'est toi.
Non. Bon, je dirais Nagui parce qu'il est égyptien.
Non, 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 non. Et voilà, les clichés, quand on a affaire à
les
bons clichetons.
Voilà. Non, la tête de pervers, c'est Daniel. Albert d'escroc. Et les filles, j'irai pas.
Deux
femmes de flics, les deux. Voilà. Ça ferait des belles fliquettes.
Alison,
voilà.
Tiens, fliquette.
Votre geste beauté au réveil.
Un geste beauté.
Oui.
Il n'a pas eu le temps aujourd'hui là.
Un petit réflexe.
Tu m'as traité
de coup d'Égyptien, ça.
Mon geste beauté.
On est sur un coiffé décoiffé déjà.
Oui, bah, ça c'est toujours pareil. Non, j'ai mon petit gel dans les cheveux, je prépare ça.
Vous êtes plutôt shampoing 2 en 1 ou plutôt
Non, je suis L'Oréal et puis non.
Quel parfum liquide ou
parfum pamplemousse ou
Non,
j'ai plutôt agrumes.
Non, je ne fais pas tout ça moi. Je n'ai pas bon moyen moi, Nagui.
Pour un shampoing pamplemousse, excusez-moi. Albert.
Je voulais savoir, dans la vraie vie, les flics comme Derrick, parce que moi j'aime beaucoup Derrick, ça existe? Ou ça a existé?
Non, mais il est trop vieux.
Tu parles des nazis?
Non, ça a existé.
Non, moi mon premier chef de groupe s'appelait Gaston, c'était un vieux Corse qui bossait en costard 3 pièces avec les pompes vernies.
Pareil, avec des binocles.
À l'ancienne. Non, il avait une gueule à l'aventura, mais non, Derrick, non, il est trop.
Daniel, des mecs comme ça existe quand même.
Daniel
Laurent. Il y en a plus maintenant, ils sont quand même, ils vont à la salle de sport et tout. Ah ouais. Ils sont plutôt beaux mecs maintenant, les flics.
En amour, comme on a prêché un point, vous êtes plutôt deux en un?
Oh non!
Mon Dieu!
Ok, non. Daniel, on s'arrête là,
je vais quitter cette émission. On est trop, quoi.
On n'a pas la réponse.
Non, tu l'auras pas. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour les deux ou trois jeunes qui nous écoutent et qui, selon leur retour, se sont bien, je cite, fait chier pendant notre rubrique Les vieux parlent entre eux de leurs souvenirs de cure thermale. Franchement, les jeunes, je ne vous comprends pas. Désolé pour pour les organisateurs de la cérémonie des Césars qui nous avaient demandé ce matin d'essayer de convaincre Olivier Marchal de venir cette année. Les gars, si vous nous écoutez, je crois que c'est un échec. Et désolé enfin pour l'humour, Nagui a annoncé son décès de façon officielle ce matin à 11h50 avec cette petite blagounette.
C'est la mède.
C'est la mède, eh oui, Nagui, voilà, voilà, voilà. Rest in peace, l'humour.
Merci Olivier d'avoir trouvé le temps de venir. Merci mille fois.
Merci Olivier.
Demain, on recevra pour sa première mise en scène au théâtre, et au théâtre de Chaillot en l'occurrence, Mélanie Laurent. Ça a commencé hier, elle sera notre invitée demain matin. Les carnets de campagne avec Philippe, pardon pour
ce
retard.
Yes, no problem.
Sorry.
You're welcome, so sorry. You know. On a dû lui dire plusieurs fois, Olivier, quoi? Mais je trouve cocasse de s'appeler Marshall après avoir été shérif.
Ah oui, on a dû.
Non, je pense jamais.
Non, oui. Vous l'avez jamais dit, tiens, c'est bizarre. Bon, ça, bah, c'est fait.
La tête dans les étoiles, c'est parti.
Merci, salut les amis.
Merci.